France Culture.
Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de poètes errants, de vagabonds mystiques, de ces fameux girovagues qui divaguent parfois, de ces calendars, en tout cas de cette catégorie de personnes qui vivent en marge de ce qui, pour certains, est la norme. Et pour évoquer ce sujet, j'ai grand plaisir à accueillir Abdelrazak Benchaaban, qui nous parle maintenant de Marrakech. Bonjour.
Bonjour.
Je suis extrêmement heureux de vous avoir via Reportit. Vous n'êtes pas présent ici au studio, je le dis pour nos amis auditeurs. Et vous êtes universitaire, essayiste, photographe. Vous appartenez au Gnawa. Vous nous expliquerez tout ça. Et vous essayez souvent de mettre de l'écrit sur vos photographies et vous vous intéressez à la culture populaire, à la poésie et à ces courants, pour certains marginaux, mais pour vous, ce sont sûrement essentiels, de ces vagabonds mystiques et de ces poètes errants. Comment cet intérêt est venu pour vous, cher Abdelrazak Benchaaban, et si vous nous disiez déjà quelques mots sur les Gnawa auxquels vous appartenez?
Moi, je suis né à Marrakech au milieu du siècle dernier, et j'ai grandi dans une famille où il se trouvait qu'il y avait, j'étais enfant, je voyais des musiciens à venir, je ne comprenais rien. Je pensais que dans toutes les maisons, ça se passait comme ça. Puis avec le temps, j'ai compris que ma tante était l'héritière, la dépositaire d'une tradition familiale, celle de son père, mon grand-père, qui était pas Gnawa, mais qui était mécène des Gnawa, parce qu'il avait besoin de les inviter chaque année pour faire une lila. Alors la lila, c'est toute la nuit, les musiciens jouent, et sur leur musique, certaines personnes entrent en transe en fonction du thème joué, il y a cette couleur donc, et cette thème, et cela les aide à vivre. Donc cette tradition de transe était présente déjà dans ma prime enfance, mais j'ai compris que c'était une longue lignée des Gnawa et des mécènes des Gnawa, qui ne jouaient pas forcément de la musique, mais qui étaient dépositaires d'un pouvoir, ce qu'on appelle Tbeqa, c'était des Mqaddem, qui réservaient une chambre, une pièce dans leur maison, à laquelle les enfants n'avaient pas le droit d'y aller, parce que c'est là où habitaient les esprits. Et ces esprits, on les honorait, on leur faisait une fête, un sacrifice d'abord, puis toute une nuit de musique, et on sortait tous les accessoires, les l'encens, etc. Et les gens venaient de tout horizon à Marrakech et de toutes les maisons chez ma tante. Et ça se faisait pendant le mois de Chaban. C'est pas par hasard que je porte peut-être ce nom. Et pendant le mois de Chaban, les musiciens jouaient d'une maison à l'autre. Ils s'arrêtaient exactement 3 jours avant le début de Ramadan. Et pendant tout le mois de Ramadan, la chambre était fermée. On ne touchait pas à cette dame. Et on laissait les esprits se reposer jusqu'au lendemain de la nuit sacrée. Et après la nuit sacrée, ben, les activités reprennent en général. Donc j'étais baigné dans ce milieu. Et comme ma tante voyageait et avait l'obligation d'aller faire des offrandes aux saints, donc je voyageais avec elle dans les montagnes, on allait dans les... Et dans les Moussems, ben, j'ai rencontré d'autres traditions qui n'étaient pas des Gnawa, qui étaient des Ahmadcha, qui étaient des Aïssawa, et qui étaient des rencontres, comme vous pouvez imaginer, les Moussems dans le Maroc, surtout les Moussems qui suivent le Maulid, c'est-à-dire une semaine après la fête de la naissance du prophète, les Marocains honoraient les saints du Maroc. Donc il y avait énormément de moussems à cette occasion. Et dans la région de Marrakech, tous partaient de Marrakech à pied et ramenaient des sacrifices, des chamelles, puis dormaient dans les villages, dans les forêts, dans la steppe. Et très jeune, j'ai fait l'expérience de marcher avec eux jusqu'à Tamsloht. C'était pas très loin, 20 km au sud de Marrakech. Mais
Le faisiez à pied ?
On le faisait à pied. On le faisait à pied et on faisait deux ou trois étapes avant d'arriver, parce que ils entraient dans les villages et ils jouaient de leur musique. Ils faisaient des dhikrs même. Ils faisaient des gours au milieu du village. Ils organisaient une espèce de cercle dans lequel ils priaient, et les gens du village amenaient de la nourriture, et ceux qui ne pouvaient pas faire le pèlerinage jusqu'au saint leur confiaient leur contribution, et cet argent permet à se procurer un animal. Souvent à l'époque, il y avait beaucoup de pluie au Maroc, donc on achetait carrément un bœuf consacré une fois arrivé au saint. Et les dawas qui faisaient cette procession étaient un petit peu les porteurs de messages, de vœux au saint. Et c'est pour ça qu'ils marchent lentement avant d'arriver au saint.
Vous nous avez parlé de beaucoup de choses qui ont leur importance et leur intérêt, mais c'est ce que vous nous avez dit est matiné de mots arabes ou du mot de la langue populaire, notamment du côté de Marrakech. Les Haddawa, c'est un pluriel d'un ordre de ceux qui suivent l'ordre de Sidi Hadi.
Exactement.
Bon, alors, qui sont-ils au juste ?
Alors, ce sont des Girovagues, ce sont des gens qui... C'est une confrérie qui est très spécifique au Maroc. D'abord, elle est hétérodoxe dans ses pratiques, et on va le voir peut-être tout à l'heure. Et ce sont généralement des hommes qui très vite rentrent dans le célibat et acceptent de vivre en célibataire. Et ce sont les disciples de Sidi Hadi. Et ces disciples passent par une phase d'initiation et arrivent à devenir des Haddawi. Et lorsque la confrérie juge qu'ils ont suffisamment tout le potentiel nécessaire pour aller porter la parole d'ailleurs, donc il leur donne une espèce d'ijaza, une licence qui leur permet de voyager seuls, avec une obligation, c'est que tous les Dawa se retrouvent chaque année en été.
Maintenant parlons d'eux et de leurs représentants. Un Haddawi, par exemple, vous avez dit que c'était un girovague. Un girovague, étymologiquement, c'est un moine qui n'est pas attaché à un monastère. Donc, il est dans l'itinérance. C'est un moine itinérant qui va de monastère en monastère. Et parfois, il fait la boucle. C'est pour ça qu'il y a une sorte de retour. Et dans ce cas précis, Sidi Hadi remonte. Il y a quoi ? Il y a deux siècles ? C'est au début du 19e siècle.
Sidi Hadi est né il est mort en 1805, à l'âge de 65 ans. On a un document adoulien. Il y en a un document adoulien écrit. Il est mort d'ailleurs là où il est mort, il a été enterré. C'est là où il y a aujourd'hui son mausolée. Donc, à Beni Aros, il est dans la tribu des Beni Aros.
On est dans le Rif.
Ça, c'est acté. On est dans le pré-Rif. On est dans le pré-Rif, c'est-à-dire avant d'arriver dans les montagnes du Rif, autour de Chaouen et jusqu'à Husseima. Donc, c'est une région qu'on appelle le pays Jbala. Il ne parle pas rifain, il parle plutôt arabe et vivent généralement de l'agriculture. Et c'est donc un document acté qui a été retrouvé par les historiens et qui donne l'âge de la mort à 65 ans en 1805. Donc, si on fait un calcul rapide, il est né en 1740, donc 18e siècle, et il a vécu 65 ans. Bien. Donc, sa tradition a duré deux siècles et demi.
Bien. Je parlais en gros de l'instauration de son ordre, mais cette tradition qui a duré 2 siècles et demi a donné naissance donc à ces poètes errants. Comment oui. leur vient, si on en prend l'exemple, puisque vous citez celui, vous êtes dans l'ouvrage consacré à ces poètes errants et à ces vagabonds mystiques, le narrateur. Donc vous dites que il y en a un qui, une fois avec un de vos amis, un compagnon de route, il y a quelqu'un qui vous a arrêté, vous étiez en voiture, est monté. Oui. Et puis, il a tenu aussi à s'acquitter, en quelque sorte, de vous donner une pièce ou quelque chose en contrepartie de l'aide que vous lui avez prodiguée.
Oui, ben c'était un curieux autostoppeur. Un matin, on était sur la route des Savira. Et moi, j'ai l'habitude, sur les routes au Maroc, au Maghreb, il y a beaucoup de gens qui voyagent seuls avec un bâton et un petit baluchon dans le Maroc. C'est une tradition qui est toujours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec la modernité, on leur prête d'avoir une maladie psychiatrique qui les éloigne de la société. Mais à l'époque, c'était un choix tout à fait délibéré. Et c'était des gens qui préféraient vivre en girouvague, sans maison, sans toit, et dormir n'importe où, dans la forêt, dans les cimetières, et vivre comme mendiant errant. Oui. Et donc ce monsieur, généralement, soit il salue, mais lui, il a insisté comme un autostoppeur. Donc j'ai trouvé tout à fait normal de le prendre, et une fois qu'il était dans la voiture, on a fait quelques kilomètres, et il a décidé de descendre. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il tenait absolument à nous donner tout ce qu'il avait. Et comme j'ai eu écho que d'autres voyageurs ont rencontré sur la même route, je ne sais pas si c'est la même personne ou une autre, des gens qui voulaient ils ont rendu service à quelqu'un, ils voulaient tout leur donner. Et il a même essayé de retirer de sa main une bague en argent, c'était son bien. Et malheureusement, la bague était très serrée, son doigt a dû s'accroître et il n'a pas pu le faire, mais il a donné tout l'argent qu'il avait sur lui. Et ce qu'on appelle dans l'islam l'ital, dans le arabe l'ital, c'est un don qui n'est pas du tout intéressé. Il vous donne ce qu'il a parce qu'il a senti qu'on lui a rendu un service. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et j'ai dit, j'ai dû croiser avant dans ma vie ce genre de personnes. Et effectivement, à Marrakech, près de un des 7 saints de Marrakech, ben, il y avait un homme que les habitants appelaient Mchicha.
Oui.
Mchicha parce qu'il avait une posture de chat et il possédait un chat. Et tous les Dawa avaient un chat dans leur coffin. Et avec lui, comme mon père avait une boutique et il lui donnait des fruits, parfois à manger. Donc il y a un lien qui s'est fait avec l'enfant que j'étais et il y avait quelque chose qui restait en lui comme enfant, donc on s'est beaucoup entendu. Il ne parlait pas, et il est resté dans un coin, il en a fait sa maison et les femmes venaient beaucoup le consulter à voix basse. Je ne sais pas ce qui s'est changé, mais il souriait beaucoup. Répondait avec des sourires Mchicha et brûlait de l'encens. Et les femmes lui donnaient quelque chose et repartaient, disparaissaient dans la foule très rapidement en pressant le pas. Et vous voyez, quelque chose qui m'a. A posteriori, j'ai compris qu'il y avait une épiphanie de visage.
Oui, comme le dit dans Éthique et Infini, Lévinas, il y a.
Oui,
c'est le visage qui parle.
Voilà. Voilà, c'est Lévinas qui m'a fait prendre conscience que ce que je vivais comme rêve en noir et blanc, parce que quand je parle maintenant, toutes les images que je vois, elles sont pratiquement en sépia en noir et blanc. C'est comme si j'avais vécu dans un film de l'époque. Mais j'ai compris avec Lévinas que oui, il y a une épiphanie de visage et c'est ce qui y a tiré. Et tous ces girovagues, pas seulement au Maroc, j'en ai vu d'autres en Inde, en Chine et ailleurs, et ils ont toujours cette caractéristique, il y a ce regard qui précède la pensée, et qui capte le regard et l'esprit de l'observateur, Et donc j'avais une petite immersion quand j'étais enfant dans ce milieu de ce girovague qui déjà se déplaçait dans les quartiers de Marrakech. Puis plus tard, j'ai compris qu'il se déplaçait en dehors de Marrakech et presque dans tout le Maroc.
Oui, Abdelazak Ben Chaban, pour rester sur ce mystérieux personnage et avec cette épiphanie du visage, vous dites que son sourire, si je m'attarde sur le cas de Mchicha, celui qui a une allure de félin, un petit félin, un chat, et qui avait aussi un chat dans son couffin, son sourire était caractéristique d'un visage où les cheveux sont ébouriffés, la barbe est hirsute, les habits ou son froc est rapiécé. Mais son sourire est accrocheur, il y a une fascination avec ce sourire.
Oui, absolument.
Et s'il a tenu pour l'autre à vous donner tout, vous avez évoqué cette notion quasi intraduisible de l'ithar, c'est au-delà du fameux potlatch où il y a le don contre don et on rivalise, rapporté notamment par Georges Bataille. Ça, c'est on donne tout ce qu'on a parce que on laisse place au renoncement, au dénuement et on se libère de toutes ces de toutes ces pesanteurs, de toutes ces lourdeurs, de tout ce qui est métal, bien de ce monde.
Oui, absolument. C'est vraiment ce qu'on appelle tajarrud. C'est vraiment un acte spirituel qui permet à l'homme de se détacher de bien matériel sur terre et de vivre une autre dimension, celle de l'amour de Dieu et des hommes.
Alors, revenons maintenant à leur poésie. Comment sont-ils inspirés? Qu'est-ce qui les pousse à déclamer comme ça leurs vers? D'où leur vient la versification, cette prosodie?
Moi, j'ai assisté à certaines de leurs réunions, puis j'étais très ami avec Ahmed Charraoui à la fin de sa vie, qui est un vrai poète heddaoui. Mais la poésie n'apparaît dans leur... Il y a des moments précis où il devient poète, et où il compose sans... C'est comme un fleuve qui arrive. C'est dans une période où ils atteignent une certaine transe. Ce sont des moments de chatahat, de débordement, où ils ne sont plus physiquement sur Terre, ils sont dans un autre monde, c'est vraiment un état second.
Abdelazak Ben Chaban, vous avez évoqué là à l'instant Chatahat, ce terme arabe au pluriel, et que vous avez tout de suite présenté comme des débordements. Nous avons consacré une émission à cela avec le professeur Pierre Loury. En dépit de leur caractère paradoxal, ces débordements ne seraient pas nécessairement, en tout cas selon lui, des propos exprimés en extase, dans un état extatique. Parfois, c'est un enseignement par l'absurde, réfléchi. Et donc, ces girovagues, quand il leur arrive de prononcer ces aphorismes, ces propos, ces apophthegmes, le font-ils dans un état d'extase ou un état un peu de lucidité?
D'après ma propre expérience, les choses dont j'étais témoin, je constate qu'avant, parfois il y a de la musique qui va monter crescendo et le poète qui était silencieux, suivait, commençait à bouger, puis arrive un moment, mais vraiment un moment extatique, où les paroles commencent à jaillir d'une manière parfois cohérente, d'une manière parfois très peu cohérente, désordonnée, mais qui avait un sens. Tout ce qui ne pouvait pas être dit dans l'état normal est dit avec liberté, avec rime, avec sens, dans cet état que je considère comme chatahat et que je considère comme état d'extase. Mais ça, c'est une expérience personnelle, qui peut-être pas généralisée, mais ces poètes ont besoin de passer à un autre état, de sortir complètement de notre temps, de notre réalité, pour pouvoir exprimer ce qui était caché dans leur intériorité et dans la normalité quand ils mangent, quand ils vont acheter des fruits, etc. Et ils parlent comme des gens normaux. Parfois, ils parlent avec une espèce de transformation du sens, mais pour dire autre chose, parce que chez les Dawa, il y a un argot spécial. Ce ne sont pas les mots de tous les jours qui sont utilisés, et seuls les initiés peuvent les décoder. Donc il y a déjà l'état second psychologique, qui est un état d'extase. Et pendant l'état d'extase, ben, ils n'utilisent pas les mots beaucoup. Ils utilisent la langue normale, mais ponctuée par du ros, qui est la langue ros, ça vient du mot profondeur.
Il raus.
Et donc, c'est un langage d'initié. Les initiés les comprennent très rapidement. Et donc, aussi bien l'auditeur que le locuteur se retrouvent dans un état de transe.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous parlons de poètes errants, de vagabonds mystiques, de derviches, de calendars, de girovagues, en tout cas, de ceux qui sont en marge de la société, mais ils le font pour des considérations spirituelles et c'est un choix de vie. Et c'est Abdelrazak Ben Chaban, l'universitaire, l'essayiste, le photographe, qui nous en parle de Marrakech via l'application Reportit. Je le dis pour nos amis auditeurs, au cas où, dans mes questions et les réponses, il y a quelques chevauchements. Pour cette deuxième partie, si vous voulez bien, Abdelrazak Ben Chaban, parlons de l'intérêt qu'a suscité cette attitude, le comportement, le mode de vie de ces poètes errants, notamment pour les anthropologues, les ethnographes, quelqu'un comme Auguste Moliéras, pour parler de l'anthropologue français, de toute une moitié ou un tiers du siècle écoulé, il est né en 1855, l'intérêt que ça suscitait en lui, vous êtes un peu fondé sur ses travaux?
J'ai regardé les travaux de l'époque, aussi bien que ceux qu'ont fait d'autres auteurs, parce que certaines étaient dans les affaires indigènes, que ce soit au nord des Espagnols ou la région où il y avait Benarros qui était plutôt française. Et les gens se sont intéressés beaucoup à ces girovagues qui ont éveillé leur curiosité, parce que ça pouvait être des messagers avec les nationalistes, et ça pouvait être des gens qui transportaient des messages, voire des armes. Donc il y avait des suspicions à leur égard. Et donc on s'est intéressé à ce groupe et on l'a parfaitement bien étudié, jusqu'à en étudier la langue secrète, parce qu'ils avaient une langue secrète qui parlait entre eux, le ros, dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est la seule documentation, les seuls documents que j'ai trouvés quand je me suis intéressé à la littérature scientifique autour de ce groupe des Dawa. Le Maroc lui-même, depuis l'indépendance, n'a pas produit suffisamment d'informations sur ce groupe. Et après sa disparition, on a une espèce de lacune sur ce qui... Donc moi, j'étais obligé de voyager, de rencontrer les derniers muqaddams, c'est-à-dire le dernier pir ou le dernier chef de la confrérie qui veillait sur le saint à Benarros pour pouvoir avoir des informations. Ouais, il m'a accueilli dans sa famille et j'ai pu rester le temps qu'il fallait pour pouvoir voir. Mais à l'époque, je n'ai pas vu de Dawa venir. C'était en 99 et je me suis posé la question. Et il m'a dit il craint de venir, parce qu'après l'indépendance, et surtout à partir des années 70, le Maroc a voulu épurer pour des raisons d'hygiène, il disait il fallait que ces gens soient propres, etc. Et ils ont préféré se disperser, ne plus se retrouver sur le lieu d'Oumoussem parce que c'est devenu un piège où on pouvait pas les arrêter, mais on pouvait les empêcher de faire leur rituel. Et se sont dispersés. Donc il y a une espèce de dispersion au Maroc. Et pour les voir, il fallait voyager et aller dans des saints qui n'étaient pas Sidi Hiddi, parce qu'ils allaient dans les Moussems pour avoir un peu de quoi vivre et continuer leur parole. D'autant plus que dans les années 70 au Maroc, vous savez qu'il y a eu un mouvement culturel qui était une contre-culture et qui s'est appuyée aussi bien dans le théâtre, Tayeb Sidiri, que dans la musique avec Nasr Rayouane qui ont repris l'esprit des Dawa et surtout leur poésie. Pour la simple raison, c'est que à Casablanca, il y avait un village, un bidonville qui s'appelait Dawar et Dawa. C'était Karian et Dawa. Et dans ce village vivaient des jeunes qui fréquentaient ces Dawa. Et Boujmer, l'un des musiciens et chanteurs de groupe Nasr Rayouane, a repris presque mot par mot leurs paroles et leur apparence extérieure, les cheveux, etc. Et c'est grâce à Nasr Rayouane et au théâtre de Tayeb Sentéri que les jeunes des années 70 ont pu comprendre et apprendre l'existence de ce mouvement depuis la fin du XVIIIe siècle au Maroc. Donc c'était une parole qui était en train de s'éteindre et la musique, la contre-culture musicale au Maroc a permis de la conserver jusqu'à nos jours. On peut trouver des enregistrements de qualité.
Alors, si on revient à l'apparence physique de ces pèlerins, de ces poètes errants, de ces vagabonds mystiques, ils sont certes en itinérance permanente. Mais il y a un autre aspect, c'est que vous dites qu'ils sont abrutis par le kiff, par le cannabis, et c'est quelque chose de systématique, le fait de s'enivrer comme ça, d'être en, ça aide pour l'extase, ou c'est un concours de circonstances. Quel est le lien entre eux et leur rapport avec cette substance?
Ben, cette substance est arrivée au Maroc, d'après certains historiens, est arrivée au Maroc avec un soufi qui est venu d'Orient. Et vous savez que déjà ce mouvement de mystique qui s'adonnait à des herbes, qui consommaient des herbes, genre le cannabis, existait déjà en Chine. Existait déjà en Orient. Et nous, ce qu'on connaissait au Maroc, c'était le chanvre, déjà est arrivé avec les Phéniciens. Mais le chanvre contient très peu de substances cannabinoïdes. Et les Phéniciens l'ont amené au nord du Maroc et les cultivaient pour pouvoir tisser des voiles. C'était des grands voyageurs, ils avaient besoin de voiles. Et les fibres du chanvre était assez solide. Le chanvre indien a fait le voyage de l'est vers l'ouest jusqu'au pays de l'islam occidental et c'était avant les Dawa, des Girouvagues, déjà au XIIIe siècle. On rapporte que un mystique voyageur est venu d'Orient et quand il est arrivé dans le village où il allait, parce qu'il a vu une mosquée, donc il savait que les gens vont aller l'accueillir, parce que cette hospitalité qui est assez, assez répandue, a caché la résine du kif sous des pierres qu'il avait. Et il est entré dans le village et les gens l'ont accueilli, il connaissait l'islam, les pratiques, il avait une connaissance de soufisme, donc il a été très bien reçu. Et ils ont remarqué que de temps en temps, il allait dans la steppe et il allait consommer sa petite dose quotidienne de résine. Et quand il consommait cette résine, quand il arrivait, il profaner des paroles, et on sentait qu'il y a un passage à un état second après la consommation de cette espèce. Et c'est comme ça qu'il a amené avec lui des graines, et ces graines ont été, par hasard, il était dans la région du Rif. Et donc, c'est à partir du XIIIe siècle que c'est les habitants du village l'ont cultivé, et ça s'est répandu dans la région. Et donc, la fumée du kif était pour les Dawa quelque chose d'indispensable. Il n'y avait pas de Dawa qui n'avait pas sa gouila, son narguilé, dans lequel il fumait du kif. Mais c'était un kif 100%, pas mélangé avec le tabac. Et il avait sur l'esprit du fumeur une action qui transformait un petit peu sa psychologie et qui le mettait dans un état second. Mais au Moussem de Sidi Hiddi, les gens fumaient du kif, mais il y avait une cérémonie pendant un dhikr, avant le dhikr, ils consommaient une espèce de soupe, qui s'appelle la chicha, et qui était fabriquée pas par les bourgeons, mais avec les feuilles. Les feuilles, on ne les fume pas, on ne fume que le bourgeon. Alors, mais les feuilles étaient ramassées, séchées, et ensuite pilées, et on faisait avec ça une sorte de soupe qui était très sucrée. Et cette soupe contribue, pendant le dhikr, à ce que les gens s'oublient et répètent le dhikr pendant toute une nuit sans se fatiguer.
Pour nos amis auditeurs, le dhikr étant une séance de remémoration, de répétition comme ça, notamment du nom de Dieu.
Du nom de Dieu et des paroles qui ont été transmises par Sidi Hiddi. Sidi Hiddi a transmis un dhikr qui a été écrit. On a des traces qui ont été écrites, et avec la répétition, évidemment, du nom du Dieu.
Un Haddawi, pour parler des membres de cet ordre-là, mais d'une manière générale, un poète errant ou un vagabond mystique, a dans son attirail, enfin, il a le minimum, dans son couffin, il y a le chat, vous nous diriez tout à l'heure quelques mots, il a forcément son narguilé, puisqu'il faut bien qu'il fume. Et puis il vit de victuailles et de la générosité légendaire, arabo-berbéro, musulmane, disons, de la région, si on reste au Maroc. Et encore une fois, c'est pas que j'en fais une fixation, ils disent, pourtant ils veulent renoncer au bien de ce monde, que le fumeur de kif est le sultan et celui qui fume que le tabac pourrait être son vizir.
Exactement, oui, oui. Oui, c'est celui, d'ailleurs, dans le groupe, il y a un leader, et le leader, c'est celui qui fume le plus du kif, et c'est celui, par hasard, qui proclame le plus de poésie. Donc, il a une position vraiment du sultan, mais celui qui fume du tabac, ce n'est qu'un vizir.
Bien. Et c'est suite, c'est sous l'effet peut-être du kif que les propos, dans certains cas même blasphématoires, sont proférés ou c'est simplement un concours de circonstances. Vous dites et vous écrivez que leur verbe est acéré, ça percute. En tout cas, ils le disent sous forme, en état d'extase, mais cela ne scandalise pas outre mesure les audiences.
Pas du tout, parce que les Dawa, on peut les classer parmi les gens du blâme, les malamati, c'est comme ça qu'ils sont définis en général. Mais celui qui les écoute, moi qui ai eu la chance de les fréquenter, ce sont des éveilleurs de conscience. Et ces éveilleurs de conscience, parfois ils utilisent le ros, c'est-à-dire le langage codé que seuls les initiés peuvent comprendre, et parfois ils utilisent le langage commun. Moi j'ai retenu un poème de Mohamed Sharqawi qui était très connu sur la place Jemaa el Fna à Marrakech, mais qui, avec l'âge, est devenu un ami, surtout quand il ne pouvait plus travailler. Donc on s'est vu, on s'est fréquenté, je suis allé chez lui jusqu'à sa mort. Dans l'un de ses poèmes, elle dit « Liouma Zahia Met ». Alors, il parle d'une femme qui s'appelle Zahia. Alors, Zahia, dans le langage courant, c'est un prénom qui existe de femme, mais Zahia, c'est plutôt un nom qu'on donne à des filles de joie.
Oui.
Et lui, dans son poème, il dit, il apprend à la foule que Zahia est morte aujourd'hui, et il les exhorte à ne pas à lui faire un linceul large, pas un linceul étriqué. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment... il défend cette femme, qui était une femme de joie, mais il a sa dignité, et il défend aussi sa dignité d'être enterré comme toute musulmane, avec un linceul blanc et large, pas étriqué, et de l'enterrer, de l'inhumer, selon le rite musulman, sans... Plus, maintenant, c'est une femme qui est morte, c'est une musulmane qui est morte, et il faut l'enterrer, il ne faut pas du tout juger de sa vie. Seul Dieu est capable de faire ce jugement.
Alors, comme ils sont en perpétuelle itinérance, en termes arabes, on parle de quelqu'un qui est un tariq et soulouk, et ce sont des saliks, ce sont des itinérants, mais vous vous dites ils sont plutôt eux-mêmes cheminés et traversés. Alors, ils sont traversés par quoi ? À en croire Émile d'Erminghem, qui s'est intéressé à eux aussi, il dit ce sont des personnages moitié saints, moitié fous, ils aiment plaisanter, ils errent sur les routes, et surtout, il préfère demeurer solitaire. Et ce qui est curieux, c'est qu'il ne meurt pas de faim. Il ne résiste pas à leurs impulsions. Leurs vérités sont ces vérités sous forme paradoxale. Donc, il y a tout un mode de vie voulu, délibéré comme tel. C'est parce qu'ils ont répudié, comme on dit, la matérialité et les biens matériels de ce monde.
Oui, oui. Moi je crois qu'on ne devient pas Hedaoui, on est Hedaoui, parce qu'il y a une phase très très importante, c'est celle d'une initiation. Et l'initiation commence chez les enfants très très tôt. Et l'initiation, il y a souvent une raison pour laquelle on devient Hedaoui. Si je prends le cas de Mohamed Sharkawi était orphelin, sa mère s'est remariée, et le beau-père l'a très très mal traité, il le frappait. Et il a commencé à fuguer très très jeune. Un enfant qui fugue, et puis on le retrouve toujours, on le ramène à la maison, et à la maison il est bastonné encore par le beau-père, et il repart. Jusqu'au jour où, arrivé à quartier de Yadlaros, à Marrakech, et il trouve qu'il y a un gour, un cercle de dawa. Et il est attiré par ce gour. Et il est attiré par ces gens, par leur apparence, par leur liberté, c'est ce qu'il m'a dit. C'était des hommes libres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de calendrier pour eux, il n'y avait pas d'heure de travail. Et donc il est resté. Quand toute la foule est partie, le garçon est resté. Et le Muqaddem, le chef de ce cercle, lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit « Je veux rester avec vous ».
Oui.
Il a raconté son histoire, ils l'ont adopté.
Oui, ils lui ont demandé, dans un premier temps, d'être un peu leur serviteur, et c'est l'étape par laquelle passe le disciple.
Dans tous les ordres mystiques, il y a ce passage obligé de service. On doit servir ses aînés, c'est un gage, c'est un moyen de montrer sa fidélité à ses condisciples et à la voie. Et ça commence toujours par faire le linge, laver les ustensiles de cuisine, faire tout ce que les autres ne font pas. Et c'est un stade obligé, mais passager. Et petit à petit, il va intégrer le cercle, il va apprendre les rites, il va apprendre les codes. Et arrivé à l'âge à peu près de 20 ans, 22 ans, il subit un examen de l'ogour, c'est comme une soutenance de thèse, donc il vient présenter toute sa connaissance devant l'ogour, Et le chef, le Muqaddam, il décide qu'il est arrivé à un stade où un oiseau peut voler de ses ailes. Il va lui donner la baraka, il choisit son compagnon, parce que souvent cette tradition de mystique elle se fait à deux. Et on commence, il choisit son partenaire de voyage, parce que on dit que Rafiq qabla tariq, on doit d'abord choisir le compagnon avant de prendre la route, parce qu'à deux, la connaissance s'améliore. On a ça dans la tradition juive, vous avez le chabota, c'est celui qui doit vous accompagner, quitte à devenir votre contradicteur, mais c'est en vous contradisant que la connaissance s'améliore. Et donc ce passage, cette initiation se fait lentement, mais sûrement, et celui qui est arrivé au stade d'être devenu, après, il a été novice, il devient disciple, maintenant on juge qu'il est capable de partir seul, donc il va poser un baiser sur le front de son maître et partir pour fonder un ghor, c'est-à-dire un cercle ou une confrérie ailleurs au Maroc. ياك بلاد مرطب من العجيب دم وسفاك يا لعت الجدر وحيوط المحبة رايبين وحيوط المحبة رايبين كالطوب روضة دول رماد واتواخ ناس محروقين يا لعت سفن الزروان
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de cette tradition de poètes errants, de vagabonds mystiques, de derviches, de calendars avec Abdelrazzaq Ben Chaban, universitaire, essayiste, photographe. Il nous parle de Marrakech où il se trouve via l'application Reportit. Et pour cette dernière partie, Abdelrazzaq Ben Chaban, parlons toujours de ces poètes errants. Vous dites qu'ils commencent à deux, mais souvent aussi ils sont seuls. L'exemple de celui qui avait un compagnon aveugle et qui curieusement avait un surnom de celui qui voit, après sa mort, il était d'une grande tristesse, il ne voulait plus voyager.
Oui, c'est celui qui voit, mais vous savez que dans la mystique et dans le soufisme,
bien on l'œil voit par intérieur.
Donc il voit par le cœur et ils voyageaient ensemble et ils ont décidé de se sédentariser carrément pendant une vingtaine d'années et ils tenaient leur gourd sur la plage de Jamalfna, accompagnés d'oiseaux. De beaucoup de pigeons, et parce qu'ils ne pouvaient plus voyager, puis l'âge venant, souvent les Dawa ne voyagent plus. Et donc, ce Bassir donnait la réplique au poète Chaqawi. Et donc, c'est souvent des questions-réponses, et c'est une façon de. On trouve dans certaines traditions bouddhistes où on se fait un examen de conscience, il y a un qui pose la question et l'autre qui doit répondre. Et cet échange n'a pour but que s'adresser à la conscience du public qui les entoure.
Mais après le décès de l'Psir, Chaqawi était frappé d'une grande tristesse, une affliction réelle, et il s'est senti tout seul, et c'est là où... Une réelle déprime l'a gagné.
Oui, parce qu'il se sentait comme un oiseau qui a perdu une aile. Difficile. En tout cas, nous, quand on était jeune enfant, pour nous, il n'était pas pensable un seul instant que ces deux personnes se séparent. Mais malheureusement, la mort a frappé très tôt l'obsède, qui s'appelait Belfaïda, qui était très très connu, Belfaïda, à Marrakech. Et le pauvre Mohamed Cherkaoui s'est retrouvé seul. Alors, il a essayé en solo, mais vous savez, quand on a eu toute une carrière, toute une vie à deux, c'est très difficile de faire un one-man show. C'était très difficile. Il a essayé, mais c'était très, très difficile. Il a essayé, mais je pense que c'était un peu tardif, d'adopter un garçon qu'on voit beaucoup sur les images avec lui à la fin de sa vie. Mais le garçon était encore très jeune et c'était très difficile de pouvoir transmettre le relais à ce garçon. Et donc Chartraoui a continué seul et petit à petit, c'est incroyable. Moi, j'ai vu le diamètre de cette halqa, de ce cercle se réduire de semaine en semaine, de mois en mois, jusqu'à disparaître. Parce qu'il n'avait plus de force. À la fin, il n'avait plus de force. Il souffrait de maladie et donc il est resté à la maison et chez lui, où il avait adopté une fille. Et comme mes parents habitaient pas très loin de lui, donc quand j'étais enfant, j'habitais chez mes parents, donc j'habitais à lui. Donc on le voyait et les gens essayaient de l'aider, enfin les gens qui l'aimaient, qui avaient les moyens, à continuer à l'aider, à lui procurer des médicaments, à le conseiller d'arrêter de fumer, parce qu'il toussait beaucoup, il avait une maladie pulmonaire qui s'est aggravée beaucoup avec le temps.
Oui.
Et avec lui, toute une tradition a disparu.
Alors, il y a deux choses. La première, c'est dans le mode de vie choisi, il y a un vieil adage populaire qui dit Sahab Sidi Hadi, Malou Hart, Malou Mharat, c'est-à-dire l'adepte de cet ordre ne possède ni terre ni charrue, et donc ça c'est voulu. Mais parce que vous m'avez dit que c'est presque la même chose que les malhamatis, ceux qui s'attirent une sorte de blâme et d'humiliation par la mendicité, ce qui explique ce choix de vie. Mais d'un autre côté, qu'en est-il de l'orthodoxie islamique pour le reste des musulmans alentour? Comment les voit-il?
Il les voyait comme des malhamatis, mais dans le cas du Maroc, c'est
Malhamati, pour nos amis auditeurs, ceux qui s'attirent le blâme
le
et
blâme, les gens du blâme.
l'humiliation. Bon, les gens
Oui,
du
les gens
blâme.
du blâme. Les gens du blâme étaient des gens ravis, étaient des gens ravis à eux-mêmes, et l'islam orthodoxe ne les condamne pas. J'ai beaucoup apprécié que cet islam populaire au Maroc, parce qu'au Maroc, il y avait un islam populaire qui s'acquittait de tous les devoirs de la religion, mais qui avait aussi une ouverture. Donc cette ouverture, les gens de l'islam populaire les aidaient. Eux ne s'approchaient pas des mosquées, ils restaient à l'extérieur. Et il y avait une espèce, comment dirais-je, pas une espèce de tolérance, parce que ce mot est, à mon avis, ne s'applique pas dans ce cas, mais considérer que ces gens étaient nécessaires et que c'était, s'ils étaient dans cet état, c'est que Dieu le voulait et les acceptait parfaitement. Et certaines Edawa s'acquittaient de la prière, faisaient la prière, etc. Mais et ils avaient des pratiques en dehors de la mosquée, des pratiques qui leur étaient propres. Donc les Edawa étaient au Maroc comme un poisson dans l'eau et la population les acceptait et la religion les condamnait absolument tout. Mais ça a changé à la fin des années 70, juste après la révolution d'Iran, l'arrivée des frères musulmans
Et
et
des
des gens
salafistes
et des
aussi.
salafistes ont commencé à les condamner. Alors que l'État, même avec sa force policière et tout, ne les condamnait pas. Ils circulaient librement. Ils avaient une circulation libre pendant 2 siècles et demi au Maroc. Mais ils ont commencé, les salafistes ont commencé à les condamner du regard, à les sacher d'ailleurs, et c'est eux qui ont peut-être contribué à leur exil, parce qu'ils ont été exilés des centres-villes vers les villages environnants, dont l'Atlas. À Itouril, c'est là où aujourd'hui leurs descendants vivent, à Itouril. Ils essayent de reprendre, mais ils n'ont pas cette foi. Ils n'ont pas cette foi profonde de Dawi, ils ne sont pas initiés, ils sont devenus mendiants. Donc ils mendient, dans les souks de la région, en jouant de la musique et dawam, et en portant de très beaux habits, des djellabas blanches, etc. Donc ça a complètement disparu.
Bien.
Et avec Sharqawi, toute une tradition a disparu. Heureusement qu'il y a au Maroc des gens qui vivaient sur la place Jamafna qui ont transcrit ces paroles. Et d'ailleurs, moi, j'ai travaillé aussi à partir de ce document privé que des gens qui fréquentaient Jamalfna avaient consigné dans des cahiers.
Bien. Je me rends compte d'une chose alors que nous arrivons à la fin de l'émission, c'est, si vous pouvez nous le dire en un mot, leur relation avec le chat, ce petit félin, et ce culte des chats, si j'ose dire.
Ben le culte du chat, c'est que c'est parti. Il y a toujours une légende qui précède une tradition, et il paraît qu'un jour ils étaient en pèlerinage, ils étaient nombreux sur la tombe du Sidi Hiddi, puis il n'y avait rien à manger. Il n'y avait rien à manger, et il y avait un chat qui a traversé, parce qu'il y avait des chats au sanctuaire, comme il y a des singes dans des sanctuaires en Inde, et quelqu'un a dit, et si on se faisait ce chat, si on le prenait et on le mangeait, et le chat a échappé, il est entré sur la tombe de Sidi Hiddi, il a commencé à crier, à crier, à crier, et pendant ce temps-là, un riche homme est arrivé avec un bœuf énorme qu'il a sacrifié, et les Dawa ont mangé de cette viande, il y avait un repas magnifique le soir, et ils ont retenu comme leçon que Sidi Hiddi est un défenseur de chats et qu'il ne faut pas du tout atteindre à leur vie, ou il faut plutôt les protéger. Et d'ailleurs, quand un Heddaoui, le chat d'un Heddaoui est mort, ben, il le traite comme un être humain et il l'enterre dans les règles de l'art, et il lui met un linceul dans un tissu. Et il part à la recherche d'un nouveau chat pour l'adopter.
Merci infiniment, merci beaucoup, cher Abdelazar Ben Chaban. C'était l'émission Questions d'Islam consacrée aujourd'hui à ces poètes errants et à ces vagabonds mystiques. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture, et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. L'attaché d'émission est Thierry Beauchon. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Delphine Baudet et la réalisation par Anna Olvek. الدنيا مهمومة وخيم مهمومة مهمومة هاد الدنيا مهمومة فيها لنفوس ولا تضيومة ولا بنادم عباد اللومة مسكين في هموم وقساي غلاليا عين في الفقا يسعى وما بحمومة مهمومة وخيم مهمومة سير يتعالى لا يحرزنا بقوي محومة هيم القصاير وليلة تلاليا خرفان مدبوحة ولبنات محومة محومة وخيم محومة محومة وهاد الدنيا محومة I'm
يسعى وما بحمومه